France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, le 1er février 1959, Maria Callas confiait par écrit à une admiratrice « Il est vrai que je fais de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même à mon public, tout le temps, autant que possible, même si je crains que ce ne soit pas toujours compris et apprécié. » Expliquer son travail, répondre aux critiques, mais aussi laisser apparaître la femme derrière la diva, l'épouse amoureuse, la femme trahie, l'être fragile. C'est ainsi que se dévoile Maria Callas au fil des quelques 300 lettres collectées par Tom Wolfe, publiées pour la première fois et qui constituent le roman d'une vie. Lettres et mémoires de Maria Callas, publiées chez Albin Michel avec Tom Wolfe. L'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Antonino Votto, et bien sûr Maria Callas dans le rôle de Gioconda, un extrait de la Gioconda de Ponchielli. Bonjour Tom Wolfe.
Bonjour.
On vous connaît parce que vous avez été l'auteur de deux livres, Maria by Callas, Callas Confidential, et également d'un film consacré à Maria Callas, qui est un film qui, je crois, a fait le tour du monde, qui a été vu dans plus de 40 pays, c'est ça ?
45 pays.
45 pays. Bon, oui. un magnifique score. Et puis là, vous venez de publier, enfin de collecter d'abord, et c'est Albin Michel qui vient de publier ces lettres, accompagnées de deux autobiographies, les deux mémoires de Maria Callas. Ça peut paraître étonnant, mais c'est en fait la première fois qu'on a accès à de tels documents. Donc, on sait que vous consacrez avec la passion et la patience d'un bénédictin à l'œuvre de Maria Callas pour faire connaître en fait la femme derrière la diva. Et évidemment, à nouveau, ce travail y participe. Comment avez-vous réussi à collecter toute cette correspondance qui est donc jusque-lors était restée inédite?
En fait, initialement, ça faisait partie du travail que j'avais commencé au moment où je préparais mon film, Maria by Callas, puisque j'étais parti pendant plus de 4 ans à la rencontre des proches de Maria Callas aux quatre coins du monde. Et Ceux-ci m'ont confié énormément de documents personnels, d'archives inédites qui ont constitué toute une partie du film, notamment les Super 8, les films privés, etc. Et évidemment, dans l'ensemble de ces documents qui m'avaient été confiés, il y avait des lettres. Et très vite, j'ai compris que ces lettres révélaient la partie la plus intime de Callas. C'était véritablement Maria qui s'exprimait à travers ces lettres. Et donc, il me semblait évident qu'elle devait constituer une partie importante du film. Et tel a été le cas, puisque ces lettres sont un fil rouge dans le film. Elles sont lues par la voix de Fanny Ardant au sein du film. Et elles nous donnent véritablement un aspect intime et tout à fait méconnu de Maria Callas. Une fois que le film est sorti et qu'il a fait le tour du monde, ce qui était une immense fierté et un honneur aussi de pouvoir accompagner ce film dans les différents pays où il est sorti. J'ai eu une sensation de mission pas tout à fait achevée en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais créé ce film, j'avais créé l'exposition éponyme à la scène musicale, ces deux livres d'iconographie, d'images et de photos en grande partie inédites. Et puis, il manquait quelque chose, c'est-à-dire ces lettres dont la quintessence avait été mise dans le film, mais dont quand même une grande partie était restée inutilisée. Oui. Et il me semblait juste et important que toutes ces lettres soient disponibles, qu'elles soient rendues au public. Et j'ai réalisé une chose à l'issue de ces cinq premières années de travail, c'est que finalement, Maria Callas a toujours essayé de défendre sa vérité. Elle a été souvent jugée, mal jugée. On a souvent raconté d'elle des propos faux. On a donné une image d'elle souvent fausse. Et elle a, tout au long de sa vie, essayé de rétablir la vérité.
Oui, on le découvre au fil, effectivement, de nombreuses lettres. Elle se justifie en disant, mais on me fait passer pour une diva capricieuse, mais je ne suis pas du tout comme ça.
Tout à fait. Et en plus, de ce fait, elle avait à cœur de raconter sa vérité et donc d'écrire une autobiographie. Et ça, c'est ce qu'on découvre aussi dans cette correspondance. C'est ces différentes tentatives d'écrire cette autobiographie. La première tentative, c'est en 57, où elle écrit justement toute la partie qui dans le livre s'appelle Les Mémoires, où elle raconte toute son enfance.
Comme si elle est encore jeune, elle a 34 ans au moment de la rédaction de ses mémoires.
Exactement. Ouais. Et elle raconte son enfance à New York d'une famille d'immigrés grecs. Elle raconte son retour en Grèce, la période de la guerre en Grèce. On découvre ses premiers pas au conservatoire, sa rencontre avec sa professeure de chant, Elvira de Hidalgo. Ouais. Elle nous raconte ensuite son retour aux États-Unis en 46.
Les débuts difficiles aux États-Unis, justement.
Les débuts difficiles, les auditions manquées. Et puis son arrivée en Italie avec Gioconda, justement, qu'on vient d'écouter, sa rencontre avec son mari, elle passe en revue tous les différents sujets un peu aussi sulfureux de l'époque, notamment sa rivalité avec Tebaldi, dont elle raconte que c'était d'abord une grande amitié et des collègues très très solidaires qui ont fait toute une tournée ensemble en Amérique du Sud. Et puis elle raconte comment tout ça a évolué. Ouais. Et donc cette première partie des mémoires s'achève en 57. Et dans les lettres, tout au long le livre couvre à peu près 30 années de correspondance, on voit que cette autobiographie est comme un leitmotiv chez elle. Elle demande même d'ailleurs à certains de ses proches ou à des critiques musicaux, à certains moments, de l'aider à achever ce désir d'autobiographie. Et puis, finalement, elle ne reprend jamais ses mémoires. Heureusement, il y a cette correspondance, évidemment, qui n'avait pas vocation à être publiée, mais qui nous raconte énormément à la fois sur son parcours d'artiste, mais aussi de femme. Et ce lien entre les deux, qui m'a particulièrement intéressé, le lien entre la femme et l'artiste. Et puis à la fin de sa vie, elle reprend dans ce désir d'achever une autobiographie, encore une fois des mémoires, rêve qui finalement sera inachevé puisqu'elle meurt à l'âge de 53 ans d'une crise cardiaque. Et donc mon désir, finalement, cette sensation de mission que j'ai eue, c'était d'achever le souhait qu'elle avait et qu'elle n'a pas pu achever, d'avoir un livre qui soit, comme vous le dites, le roman d'une vie et l'autobiographie qu'elle aurait voulu sans doute.
Thank you.
Maria Callas dans le rôle d'Elvira, l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Tullio Serafin, un extrait des Puritains de Bellini, Tom Wolfe. Tullio Serafin, une rencontre vraiment fondamentale pour Maria Callas à Vérone en 47, au moment de la Gioconda. C'est le même moment où elle rencontre son futur mari, Giovanni Battista Meneghini, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et vous nous avez dit, Tom Wolfe, que la vie et la carrière, la vie de la femme et la carrière de l'artiste étaient souvent imbriquées. À telle enseigne que vous avez, à raison et à juste titre, glissé en regard de ces lettres le calendrier professionnel de Maria Callas. Et souvent, ça donne le tournis de voir notamment dans ses premières années qu'elle chantait, répétait Bellini dans la journée, elle chantait Wagner le soir, des choses qui nous paraissent totalement incongrues aujourd'hui. Et puis cette année 1953, puisque cet extrait des Puritains date de 1953, l'enregistrement, je crois que c'est une année dans laquelle il y a juste une lettre, je crois, de Bernstein à Maria Callas et quatre enregistrements des concerts. Enfin, c'est une vie totalement incroyable.
Oui, je crois que c'était important pour moi d'ajouter en fil rouge du livre cette chronologie, une chronologie complète de toutes ces représentations, que ce soit opéra ou concert, et de ces enregistrements. Parce que ça nous aide, c'est comme un fil qu'on suit entre les lettres, qui nous aide à la fois à comprendre le contexte de telle ou telle lettre qu'elle écrit, là où elle se trouve, ce qu'elle est en train de faire, et en même temps, on comprend aussi cette trajectoire d'artiste, où on voit dans les premières années, comme par exemple le début des années 50, où il y a une quantité phénoménal de représentations alternées d'enregistrements dans des pays différents, des villes différentes, et évidemment on voit cette trajectoire décliner avec le temps, au fur et à mesure où elle fait des choix dans sa vie aussi, qui vont dans les années 60 l'éloigner un peu plus de la scène.
Ça, et musicalement, pardonnez-moi, ce sont vraiment les années 50, les années les plus fortes.
Disons ces années de gloire.
C'est ça, voilà.
Ouais. Bien sûr, ce sont les années à la Scala, c'est sa carrière à Londres, au Covent Garden. Tout ça, on le découvre aussi au fur et à mesure, puisque on suit avec elle pas à pas, puisque tout le livre est chronologique. On suit avec elle pas à pas les débuts dans les différents théâtres, ses débuts au Metropolitan à New York, avec le retentissement deux ans plus tard en 58 lorsque elle est virée du Metropolitan.
Oui, parce qu'on dit qu'elle n'a pas respecté le contrat, c'est ça?
Oui, enfin, il y a un différent entre elle et Bing. Et ça, c'est très intéressant parce qu'avec les lettres, on suit tout le déroulé de ce qui Exactement. A mené à son licenciement retentissant. Et on voit tous ces échanges qu'elle a avec Bing, en fait, sur les deux années précédentes. Et on voit qu'entre elle et Bing, il y a un désaccord profond artistique. Et finalement, son intégrité artistique et son perfectionnisme à vouloir faire des opéras du plus haut niveau ne correspond pas aux exigences d'un directeur comme Bing, et on voit ces échanges se tendre au fur et à mesure jusque on a dans le livre les derniers télégrammes la veille et le jour de son licenciement, et on comprend que c'est une relation complètement explosive qui va effectivement exploser aussi au niveau médiatique, donnant lieu à deux communiqués publics, l'un de Bing qui est aussi dans le livre et elle qui sur trois ou quatre pages va expliquer ce qui s'est passé. Et il y a dans le livre plusieurs de ces lettres ouvertes, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qu'une artiste comme elle ait eu le besoin d'écrire dans la presse
sans avoir pour se justifier, ça paraît incroyable,
pour se justifier, pour se défendre de toutes les attaques qu'elle subissait. Et évidemment, à travers ces lettres ouvertes, on apprend énormément de choses sur les différents événements de sa vie.
Nel fango d'onor mio gettai.
Non sei la tua
Maria Callas dans le rôle de Médée, l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Leonard Bernstein, c'était à la Scala de Milan. En 1953, en public, un extrait donc de Médée de Cherubini. Tom Wolfe, il y a, parmi les correspondants de Maria Callas, il y a Pasolini, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait de Médée, puisqu'ensemble, on le sait, ils tourneront en 69 le film, le seul vrai film de cinéma qu'a tourné Maria Callas. On sent qu'il y avait une grande proximité, une grande amitié, une grande affection entre Pasolini et Maria Callas.
Oui, je crois que c'était à la fois une admiration mutuelle entre deux artistes et au-delà de ça est née une grande complicité personnelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on découvre. Alors, on a la première lettre qui apparaît, est une lettre de Pasolini à Callas, qui lui écrit pendant le tournage du film Médée en 69 en Turquie, et qui répond vraisemblablement à des inquiétudes, à une anxiété qu'on peut comprendre, puisque c'était la première fois que Callas faisait ses premiers pas au cinéma, dans un rôle qu'elle connaissait, qu'elle avait fait sien, Médée,
bien sûr, ouais.
Mais cette fois-ci sans musique, sans chant, et donc évidemment on peut comprendre l'anxiété qu'elle avait, et donc Pasolini lui écrit pour la rassurer, et en même temps on sent déjà une forme de lien qui va au-delà de celui d'un réalisateur à une comédienne. Et par la suite, c'est une série de lettres que Callas va lui adresser. D'ailleurs, dans les deux années qui suivent Médée, on comprend que leur amitié est allée au-delà de la sortie du film lui-même. Et là, on découvre une Callas qui est presque, qui s'adresse à lui presque comme une grande sœur. Elle le conseille sur ses histoires d'amour. Elle le rassure. Elle le réconforte aussi. Et pendant ces deux années où elle lui écrit, je crois qu'elle, à travers cette relation, elle se dévoile aussi beaucoup elle-même et elle se confie à lui. Et donc, on sent vraiment une complicité et quelque chose de qui a été important, je crois, à une époque de sa vie. Et puis avant ça, on a aussi une lettre de Visconti que j'ai trouvée très intéressante, où Visconti, qui apprend que Callas va tourner avec Pasolini, essaye de l'en dissuader. et c'est très amusant de penser que ces deux très grands réalisateurs se sont en quelque sorte battus pour avoir Callas. Évidemment, Visconti aurait adoré, il l'avait dit, que Callas joue dans un de ses films. Mais voilà, ça ne s'est jamais fait.
Maria Callas dans le rôle de Lady Macbeth, l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Victor de Sabata. C'est un extrait du Macbeth de Verdi. Tom Wolfe, au fur et à mesure que l'on lit cette correspondance de Maria Callas, on sent la femme de plus en plus seule. Et dans certaines lettres, notamment, je crois que c'est une des lettres adressées à Pasolini, où il lui dit qu'en fait, dans la vie, on n'a que très très peu de vrais amis. On peut même se demander, à la fin de sa vie, si elle avait vraiment quelques véritables amitiés sur lesquelles elle pouvait se reposer. Il y a effectivement aussi ces courriers adressés à son ancienne professeure de chant, quand Onassis la quitte.
Effectivement, je crois qu'elle va tomber dans une forme de solitude à partir de l'année 1968, qui est l'année où Onassis va la quitter pour Jackie Kennedy. Et c'est très étonnant de lire à ce moment-là les lettres qu'elle écrit à Elvira de Hidalgo, qui est effectivement sa professeure de chant, mais aussi, on le découvre tout au long du livre, comme une mère de substitution. C'est-à-dire que c'est vraiment la femme à qui elle va confier son désarroi, sa blessure à cette époque. Et aussi, on va suivre tout au long de cette correspondance ses efforts pour se relever. À la fois personnellement de cette trahison, de cette humiliation aussi, une humiliation aux yeux du monde entier, avec le mariage d'Onassis et Jackie Kennedy, et aussi se relever en tant qu'artiste, puisque c'est une période compliquée pour elle. Elle a renoncé à sa dernière représentation de Norma à l'Opéra de Paris en 65. Elle n'est pas remontée sur une scène d'opéra depuis, et elle est tout à fait consciente des difficultés qu'elle a avec sa voix. Elle en parle aussi dans plusieurs de ses lettres. Et donc, elle va essayer de trouver un nouveau chemin. Et c'est comme ça qu'elle arrive à faire ce film de Pasolini, en cherchant un nouveau chemin. Et elle dit dans la lettre à Hidalgo, en 68, « Je dois travailler à tout prix. Je dois trouver quelque chose à faire. » Mais finalement, ce désarroi de femme et d'artiste va persévérer et va l'amener dans une forme de solitude dans les dernières années de sa vie. Bien que ce n'est pas une solitude omniprésente, il y a quand même des événements, il y a cette dernière tournée que l'on suit aussi avec Di Stefano, il y a beaucoup de lettres qu'elle écrit pendant la tournée des différents pays où elle est, notamment au Japon où la tournée se termine. Et puis il y a ces lettres de 75 et 76 dans les deux dernières années de sa vie, où notamment elle écrit à Umberto Tirelli, qui est un célèbre costumier italien avec qui elle avait travaillé dans ses jeunes années à la Scala. Et elle lui écrit à quel point elle se sent seule en tant que femme. Elle dit aussi le fait qu'elle a peu d'amis. Et aussi cette solitude d'artiste. Elle dit notamment cette phrase « Il n'y a plus de chef d'orchestre. Il n'y a plus que des batteurs de mesure. » Et encore. C'est-à-dire qu'elle est vraiment consciente d'une époque qui a changé artistiquement. Mmh. Et elle ne se sent plus tout à fait faisant part de ce monde. Mmh. Le monde de l'opéra, de la musique a changé. L'a oublié aussi, un petit peu. Et voilà, on ressent cette solitude, bien que il y a quand même toujours un espoir. Dans les dernières lettres, elle dit qu'elle répète encore. Alors elle dit tour à tour qu'elle décide d'arrêter de chanter, de mettre fin à sa carrière. Et chose qu'elle n'a jamais annoncée publiquement, mais on le découvre dans ses lettres. Et en même temps, dans une lettre suivante, elle dit bon, je répète quand même, j'essaye quand même, peut-être que ça va donner quelque chose, on verra. Peut-être l'année prochaine. Il y a toujours des projets et de l'espoir. Et je crois que ça a été le cas jusqu'au dernier jour de sa vie.
Très bien, merci beaucoup Tom Wolfe. Je vais juste préciser qu'en fait, les droits de ce livre sont perçus, vont aller à un fonds de dotation, c'est ça ?
Oui, on a établi il y a 2 ans maintenant, avec les proches de Maria Callas, c'était leur souhait d'établir une institution officielle, le fonds de dotation Maria Callas, qui a vocation à préserver toutes les archives personnelles de Maria Callas et à donner le jour, probablement dans quelques années, au musée Maria Callas à Paris. Et donc tous les droits de ce livre sont reversés au fonds de dotation Maria Callas.
Très bien, je rappelle le titre de ce livre, Lettres et mémoires de Maria Callas, publié chez Albin Michel. Merci Tom Wolfe.
Merci,
il y avait
Philippe.
Aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Jean-Michel Bernaud, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, exactement l'année prochaine même. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.